Bonjour Nathalie Raïssac-Jarrard.
Bonjour.
Vous êtes candidate aux législatives sur la 3e circonscription de la Charente-Maritime. Vous représentez le mouvement écologiste indépendant. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter ? Qui êtes-vous ?
Oui, merci. En premier point, j'ai un ancrage historique et fort à la Saintonge que je connais bien. J'y suis constamment revenue, même en vivant et en travaillant à Paris. Je me suis mariée dans une église romane, une très belle église romane à l'est de Saintes. Mes enfants sont nés à la maternité de Saintes, dans l'ancien hôpital. Toute ma famille repose dans un vieux cimetière de Charentais. En tant qu'étudiante, j'ai été stagiaire d'été à la Banque de France, donc quand c'était encore une succursale. J'ai fait les vendanges à la main, quand l'eau vous dégouline dans les bottes. Et donc voilà une forte attraction et une forte présence dans ce territoire local. Professionnellement, j'ai évolué pendant une trentaine d'années dans le secteur des services aux entreprises, dans une société qui concevait et organisait des salons professionnels internationaux. Donc je connais bien les entreprises, je connais bien leurs rouages. Donc c'est aussi une forte expérience, une compétence qui me permet de dire que je suis à la fois une fille de la campagne et une femme de terrain, une femme de dossier. Et le dernier point concernant mon parcours, c'est une implication forte depuis 18 ans dans un collectif associatif local qui travaille avec les acteurs locaux, les institutionnels de la région, du département, de la commune, dans l'objectif de protéger avec la détermination nécessaire un micro-territoire fragile, sensible, qui est soumis aux aléas des inondations, du surtourisme. Donc là, on parle d'enjeux de préservation du patrimoine, de l'histoire, du patrimoine bâti, des espaces naturels, et puis de riverains. Voilà, donc, parce que je pense que nous pouvons tous apporter quelque chose à la vie publique locale, et que partir du local pour aller au national, c'est quelque chose, et de faire entendre la voix des habitants, ce que j'essaye de faire moi justement à ce niveau associatif, c'est quelque chose d'utile et d'important. Et donc je pense qu'on peut capitaliser sur mon parcours, sur cette expérience, sur ces compétences, et les mettre au service des habitants.
Quel est votre parcours en politique ?
Alors, vous voyez, quand j'observe la politique actuelle, je suis heureuse, quelque part, de ne pas avoir de parcours politique, de parti. Les unions, les désunions, les alliances, sur les marchés, j'entends beaucoup les candidats encourager à voter contre quelqu'un d'autre, contre un autre parti. Et moi, dans cette politique-là, je ne me retrouve pas,
Vous dites que vous souhaitez vous démarquer des partis traditionnels, droite-gauche, des clivages politiques.
Alors, quand j'ai été approchée par le MEI, le Mouvement des écologistes indépendants, c'est justement ce qui m'a plu, pas d'étiquette, ni de droite ni de gauche. En revanche, on a eu un partage sur les valeurs et les objectifs. Donc, en effet, pour moi, ça, c'était quelque chose d'important et de fondamental. Voilà, la raison de mon engagement, c'est en effet ce contact. C'est aussi, je suis émue quand j'entends de jeunes parents présenter leur nouveau-né en disant mais dans quel monde vont-ils vivre. Le climat fout le camp. Les campagnes ou les villages se vident. Les plans, voilà, à mon sens, un fort gaspillage des ressources qui sont à notre disposition. Les plans d'occupation des sols qui sont pas forcément avec une vision, qui sont plutôt désordonnés. Tout ça, ça me fait agir. Ainsi que quand on voit les poumons verts ou des espaces naturels sensibles qui deviennent aujourd'hui des monnaies touristiques. Et que là, on touche à la nature, en fait, alors que c'est notre premier capital. C'est l'exemple même d'une affaire collective. Et donc, oui, justement, la nature, elle se fiche des étiquettes.
Vous ne vous retrouvez pas dans le parti Europe Écologie Les Verts qui a rejoint la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale ?
Alors, le fondateur de l'UMEI en était un des piliers. Il en est sorti convaincu que... Donc, il a fondé son propre mouvement, convaincu que cette écologie-là tuait l'écologie, ou en tout cas ne lui apportait pas la reconnaissance et les besoins qu'elle a. Et donc, en effet, il y a eu un split entre ces deux visions, et puis une vision un peu urbaine, minérale de l'écologie, et là, une vision beaucoup plus pragmatique, terre-à-terre, au plus près du rural, pour la préservation des paysages, au-delà des parties. La nature est au-delà des parties. Et c'est ça qui m'a intéressée dans cette approche et qui continue de m'intéresser.
Alors, vous dites que vous souhaitez remettre la nature et le vivant au cœur du débat. Ça fait partie de vos priorités dans le cadre de cet engagement pour ces législatives sur la troisième circonscription de Charente-Maritime.
Alors, en effet, un des objectifs, c'est de sensibiliser le plus grand nombre à la nature, à sa préservation. Si au passage, mais là c'est une parenthèse, on peut accroître la représentation féminine dans une assemblée nationale qui est encore très masculine, je pense que ça a aussi du sens, avec la sensibilité des femmes et justement de se préoccuper de ce sujet qui est assez majeur. Alors pour parler des priorités au niveau local, je pense qu'il faut partir des atouts et des faiblesses de notre territoire. Moi, il y a une information qui m'a marquée, émanant d'experts, c'est que la Nouvelle-Aquitaine, dans moins de 20 ans, aura le même climat que l'Espagne. Voilà, donc la priorité, c'est toujours...
Ça vous fait froid dans le dos, sans faire de mauvais jeu de mots?
C'est très inquiétant. D'ailleurs, on y est déjà quelque part. C'est inquiétant, mais il faut aussi que ce soit un moteur et que ça permette d'agir. Et donc, les priorités, il faut les concevoir en fonction justement du filtre de la nature, du filtre de cette préservation de l'environnement qui nous entoure. Quand on regarde justement nos forces et nos faiblesses territoriales, on est tout le temps en voiture. Donc, une des priorités, c'est l'alternative auto-voiture, c'est la question de la mobilité. Un des points, c'est le vélo. Mais ce qui interpelle, c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de pistes cyclables pour les touristes et pas pour les locaux, pas pour les habitants. Le ferroviaire, on a fermé toutes les petites gares. Donc voilà, remettre la mobilité dans les priorités.
C'est une équation pas simple à résoudre sur un territoire comme celui de cette troisième circonscription de la Charente-Maritime, qui est un territoire très rural, très étendu.
Clairement. Je ne dis pas qu'il y a des solutions partout. Je dis simplement qu'en l'occurrence, en effet, ce n'est pas simple. Autrement, on aurait certainement déjà mis beaucoup plus de moyens de transport public. En revanche, c'est une prise de conscience. C'est pour aller vers quelque chose de différent, puisque de toutes les manières, à un moment donné, on va être obligé de décarboner. On va être obligé de se séparer de cette dépendance que nous avons au gaz, au pétrole, au charbon. Et donc, clairement, la voiture, c'est ce qui nous lie justement à ces ressources dont il faut qu'on se défasse.
Qu'est-ce qu'il faudrait développer alors, selon vous ?
Alors, on a aussi un espace rural, la ruralité, c'est la caractéristique, vous venez de le dire, de notre territoire. Il y a la priorité et un enjeu majeur qui est la préservation des paysages. C'est la manière dont on occupe les ressources foncières qui sont mises à notre disposition. C'est des alternatives à l'étalement urbain, par la rénovation de l'ancien, par exemple, parce qu'on a un très beau territoire et on construit. On constate le débordement de l'urbanisation sur les terres agricoles, de l'aménagement urbain dans des espaces naturels. Donc, à un moment donné, remettre en effet, enfin, protéger cette ruralité par le biais de la préservation des paysages. Dans les priorités locales, la ruralité, c'est l'agriculture, hein, vous l'avez dit à demi-mot. Aujourd'hui, il y a quand même 25 fermes qui ferment en France tous les jours. Donc, il faut favoriser le développement des fermes à taille humaine et qui vont produire une agriculture de qualité, une alimentation de qualité.
Ça passe par le développement du bio ?
Le développement du bio, de l'agriculture raisonnée, des circuits courts. Et puis ça passe aussi par de la cohérence. Vous voyez, ce qu'on entend aujourd'hui, nous, dans notre démarche de campagne, c'est que au moment des confinements, etc., les gens se sont beaucoup rués vers les producteurs locaux, les paniers, etc. Et aujourd'hui, ces gens-là nous disent, mais on ne voit plus personne. Donc il y a aussi cette question de l'écologie et nos priorités passent par de la cohérence et de la stabilité, de la ténacité dans les comportements. Dans les priorités locales, il y a l'eau. Soit on en a trop et on inonde, notamment pour tout ce qui est les communes proches de la Charente ou des affluents de la Charente. Soit on n'en a pas assez et donc on est en sécheresse. Donc la question de l'eau, elle ne se résoudra pas non plus comme ça, mais il faut absolument s'appuyer sur tous les services experts pour préserver son volume et sa qualité.
Vous êtes pour ou contre le stockage de l'eau dans des réserves de substitution agricole ?
Alors, c'est ce qu'on appelle les bassines. Non, c'est important qu'il y ait ce type de réservoir, à la condition express étant que l'eau puisse retourner, en effet, soit dans les milieux, dans la nappe phréatique ou dans la mer. Et donc, il faut arriver à répondre aux besoins de l'agriculture tout en préservant les ressources d'eau souterraines, puisqu'elles sont vitales. Alors justement, en parlant d'eau, il y a la question de la récupération des eaux de pluie aussi. Là, c'est clairement l'écologie pragmatique, l'écologie positive qu'on encourage et non pas par le biais de lois qui seraient punitives ou qui seraient coercitives. Et donc l'idée, c'est en effet de nous amener tous à avoir ce type d'action en étant acteurs et non pas en subissant des lois qui nous tomberaient dessus et qui sont évidemment qui n'encouragent pas à l'action.
Vous prenez une meilleure qualité de vie pour les générations futures, ça passe par quel type de projet et d'engagement ?
Alors, on constate aujourd'hui, alors déjà, je pense qu'il faut encourager, développer la formation des jeunes, et notamment de jeunes techniciens, dans le domaine des énergies renouvelables, puisque il faut sortir du carbone. On a plus le temps d'attendre. Et donc là, il y a un champ du possible et des possibles qui est extrêmement ouvert avec les énergies renouvelables, le bois, la géothermie, l'hydroélectricité, le solaire thermique.
Des solutions qui sont sous-exploitées aujourd'hui.
Mais qui sont des filières qui sont pas forcément qui existent, qui sont pas forcément reconnues justement pour leur valeur d'utilité pour la société et qui permettent aux jeunes de trouver du sens aussi dans ce qu'ils vont faire. Donc il y a toute cette question de la formation. Il y a la relocalisation aussi en France. Parce que tout ce qu'on n'importe pas et qui produit énormément de CO2, c'est moins de CO2. Ça favorise en effet les circuits courts dont on a parlé. Il y a aussi le développement du ferroviaire, le fret des marchandises. Ça c'est plutôt au niveau national qu'il faut renforcer parmi les solutions, puisqu'il faut absolument qu'on sorte de ce système et qu'on trouve des solutions. Et puis alors à un autre niveau, mais c'est de l'écologie humaine au niveau national. Je suis convaincue qu'on a un gros chantier à ouvrir concernant les EHPAD. Bien évidemment, il faut maintenir les anciens au domicile et pas les sortir de leur milieu de vie. Ça crée aussi de l'emploi. En revanche, il y a un grand nombre de nos aînés qui sont contraints d'aller dans ces EHPAD. Et là, on a la chance d'avoir dans notre territoire deux modèles autour de Saintes. Et donc, je pense qu'il faudrait réfléchir à ces modèles et les déployer au niveau national.
Privilégier une gestion publique, c'est ça ?
Alors, public et avec plus... les modèles que je cite fonctionnent aussi parce qu'on y retrouve des congrégations. Et c'est certainement aussi ce qui fait toute la différence, c'est l'humanité dont on a besoin, dont les aînés ont besoin, dont le personnel a besoin. Et donc, voilà, il faut réfléchir à un système public, caritatif, mais qui, en tout cas... les respecte.
Une question sur le pouvoir d'achat qui est l'une des principales préoccupations des Français. Quelles sont vos solutions, vous, pour aider les foyers les plus modestes à boucler leur fin de mois ?
Alors, il y a les plus modestes, il y a les jeunes, il y a les indépendants qui sont les plus touchés. Alors, la question du pouvoir d'achat, quelque part, tout ne peut pas venir d'en haut. Même si, en effet, on doit continuer d'aller vers la réduction des taxes, notamment la taxe carburant. On peut même se poser la question de la taxe de l'audiovisuel, des taxes sur les produits de première nécessité. C'est clair. Aujourd'hui, ceci dit, on voit bien que l'échec carburant, l'échec alimentation, on ne les aura qu'une fois, sont des mesures ponctuelles. Donc, je pense qu'il faut que nous soyons aussi tous nos propres acteurs. Et l'écologie est justement aussi un moyen de gagner en pouvoir d'achat dans la manière dont on se nourrit, dans la manière dont on se vêtit, dans la manière dont on se déplace, dans le logement. Donc avec en mode écologie positive et qui peut aussi influer sur nos budgets et les ressources qui nous restent en termes justement de pouvoir d'achat.
Dernière question, quel message souhaitez-vous adresser aux électeurs ?
Dans les messages que je souhaite passer, puisqu'on a encore quelques jours, c'est le premier, les messages sont très clairs, le premier c'est voter. Allez voter. Dans notre expérience de campagne, on est étonné du nombre de gens qui nous ont manifesté leur éloignement de la politique. Donc l'abstention risque d'être énorme. Voter, c'est un acte démocratique. C'est aussi protéger notre démocratie. On voit combien elle est malmenée à 2000 km d'ici. Donc voter blanc, voter vert, c'est mieux. Mais vraiment, on ne peut qu'encourager cet usage important de notre démocratie. Et puis le deuxième message qu'on souhaite passer, c'est justement à tous ceux qui reviennent dans les territoires ruraux ou qui viennent dans les territoires ruraux, qui puissent être les ambassadeurs justement de la préservation de nos milieux, rien qu'en étant éco-conscients, éco-acteurs. C'est le cas d'ailleurs de ma suppléante, Alice Bourson, qui est une trentenaire convaincue et qui est complètement déjà dans cette logique-là, de faire attention aux incidences de notre activité sur nos milieux. Alors concrètement, ça peut être planter des arbres, soutenir des associations qui protègent les océans, parce que tout ça, c'est la réduction du CO2 et tout ce qui capte le CO2. Les circuits courts, on en a parlé, voilà. Et donc veiller à ce que la nature guide nos actions et voire guide la politique. Moi, c'est ce vers quoi je me dirige dans cette campagne et dans cet objectif.
Nathalie Raïssac-Jarrard, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous remercie beaucoup.